Écouter un écrivain,
entendre son œuvre,
des entretiens,
des lectures.
Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h.
Des auteurs français, des auteurs étrangers.
Annie Ernaux,
Antonio Lobo Antunes,
André Brink,
Jean Dormesson,
Lydie Salvet,
Olivier Rollin.
Et toute cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Jean-Philippe Toussaint.
Cette semaine, Arnaud Laporte rencontre Jean-Philippe Toussaint. Ce soir, documenté.
Pour ce quatrième volet de nos entretiens, Jean-Philippe Toussaint, je vous propose après débuter, écrire, regarder, le verbe documenter. Un verbe titre pour nous permettre de parler d'un certain nombre de sujets. En fait, peut-être qu'on pourrait commencer par ce que l'internaute peut découvrir sur votre site jptoussaint.com, un site réalisé en collaboration avec l'informaticien Patrick Soquet. Alors, il convient déjà aussi de serrer le type de documents qu'on peut trouver sur ce site. Brouillon et inédit, commençons peut-être par les brouillons. Pourquoi finalement proposer ce matériau très riche, vous allez nous expliquer les différentes strates qui le composent, ces différents états. L'idée remonte à quand pour vous ?
J'ai suivi depuis une dizaine d'années, même peut-être davantage, tout ce qui était lié à Internet. J'ai même été indirectement un précurseur. Je dis indirectement parce que l'idée ne vient pas de moi, mais du producteur du film La Patinoire, que j'ai réalisé, un des deux producteurs. L'autre productrice étant ma sœur, mais Pascal Judé-Lévitz a eu l'idée de permettre aux internautes de suivre en direct le tournage de La Patinoire. Comme il y avait un décor unique, qui était une patinoire, la patinoire de Franconville, il a décidé, on est en 97, d'avoir une webcam qui tournerait 24 heures sur 24. Alors c'est une idée qui était à l'époque très novatrice, et même peut-être trop novatrice, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas suffisamment d'internautes, il n'y avait pas suffisamment de débit. Ce qui fait qu'il y a quelques personnes qui ont suivi, et eux s'en souviennent très bien, mais finalement il n'y avait pas assez de gens spécialisés, et on a fait vraiment une expérience tout à fait originale. Je pense que même historiquement c'était un des premiers films qui a choisi d'avoir un site dédié, donc c'était lapatinoire.com à l'époque, ça n'existe plus, et on avait quand même ce tournage en direct. Donc c'est une chose, j'ai toujours été attentif à cela. Au début des années 2000, il y a un professeur aux États-Unis qui s'appelle Alain-Philippe Durand qui m'a proposé de participer à un séminaire virtuel, c'est-à-dire d'accepter, ça marchait pas encore très vite, il n'y avait pas Skype, mais il y avait Internet, donc je devais être à proximité d'un ordinateur pendant 2 semaines et accepter le principe de répondre aux mails, en fait, aux questions des étudiants. Et donc, les étudiants avaient lu La Salle de Bain et avaient visionné la patinoire et me posaient chacun un certain nombre de questions. Mais tout ça m'intéressait. J'ai suivi ça de près avant d'arriver. Donc, j'ai quand même réfléchi pendant 9 ans. Et en effet, avec Patrick Soquet, il fallait trouver la bonne personne. Et Patrick Soquet était la bonne personne. C'est un informaticien qui avait travaillé avec Sony sur le livre numérique, qui était vraiment très, très... calé très fort dans tous ces domaines. Ma réflexion, c'est que je disposais finalement d'un très grand corpus de documents, qui étaient à la fois des documents écrits, donc qui sont devenus des PDF. Je disposais de vidéos, je disposais de photos, étant à la fois cinéaste, photographe, écrivain. Bon, une des choses, vous l'avez souligné, je me suis interrogé, est-ce que j'avais envie ou non de mettre mes brouillons en ligne ? L'idée était intéressante parce que c'est quelque chose qui est spécifique à Internet. Je ne pense pas que je demanderais à Irène Lindon de publier l'intégralité de mes brouillons en 7 tomes de 300 pages chacun. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc c'est quelque chose qui ne peut exister que sur Internet parce que c'est une masse énorme. Puisque moi, en fait, je sauvegardais au fur et à mesure les différentes versions. J'ai un certain nombre de brouillons que j'ai scannés. La question, c'était est-ce que j'acceptais le principe de le rendre publique d'une certaine façon? La réponse est oui. Alors je me disais, il y avait quelque chose qui me gênait un petit peu. C'était à la fois, je dirais, exhibitionniste et masochiste. Et en même temps, je suis passé outre ces adjectifs en me disant, ce qui m'intéresse, c'est que je propose quelque chose qui est spécifique à Internet. Je travaille sur une forme. Et j'essaye de créer avec Patrick Socquet et avec d'autres personnes, on y reviendra peut-être, un site Internet qui est une vraie réflexion sur la forme et sur la spécificité d'Internet. C'est pas un site d'écrivain. Donc il y a beaucoup de choses que je voulais éviter, le côté page Facebook ou mes rendez-vous, je suis tel jour, je fais une conférence là, les photos, moi avec un tel, moi avec un tel. Tout ça ne m'intéressait pas beaucoup parce que ça n'a aucune spécificité formelle. Donc réfléchir avec des gens qui s'intéressent à Internet, qu'est-ce qu'on peut proposer qui soit vraiment spécifique? Et donc la mise en ligne et mise à disposition de mes brouillons me semblait une expérience réellement originale. Et jusqu'à présent, j'ai jamais regretté, même si j'ai pas envie trop de me pencher sur la question. C'est-à-dire que j'ai pas trop envie que quelqu'un me dise « Ah, mais vous avez écrit dans tel brouillon que... » Bon, ça me fait un petit peu peur, parce qu'il y a ce côté... Mais c'est un risque que je prends.
Deux choses par rapport à ça, Jean-Philippe Toussaint. Il y a d'abord le fait que vous ayez, vous, depuis longtemps, eu le désir ou ressenti la nécessité de sauvegarder différents états d'un livre qui s'écrit, ce qui n'est quand même pas le cas de tous les auteurs, à l'ère où on écrit sur les ordinateurs et où un fichier peut en écraser, en effacer un autre. Et puis d'autre part, c'est pas parce qu'on montre les coulisses qu'on explique quoi que ce soit. Vous pouvez être dans la cuisine d'un grand chef et regarder comment il fait son plat. C'est pas ça qui va vous expliquer pourquoi le plat va être bon. Donc, vous montrez beaucoup, il y a cette envie-là qui préexiste, et en même temps, ça ne dit rien d'une certaine façon.
Tout à fait. Je partage parfaitement la deuxième réflexion. Évidemment, c'est pas parce que je montre comment je procède que le mystère de la création est résolu. Enfin, c'est... On peut étudier longuement mes brouillons, je ne pense pas qu'on écrira comme moi à la suite de cet examen. Enfin, je pense que ça ne dévoile rien. Et alors, sur la première partie de la question...
Documenter, alors là, vraiment, pour le coup, garder les différents états.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je n'y avais pas du tout pensé dans un sens d'archive, et ce n'est qu'après que je me suis dit que, disposant de cette matière... j'allais pouvoir la mettre à disposition. Il s'est trouvé tout simplement que je travaille par session de travail. Entre chaque session, je sauvegarde. Et donc, simplement, je fais enregistrer sous. Et donc, j'ai, en effet, à la fin d'un livre, à la fin d'un manuscrit, j'ai 10 à 15 versions du manuscrit. Je les ai. Et même d'un point de vue pratique, c'est-à-dire qu'en fait, il m'est arrivé d'aller voir ce que j'avais 6 mois plus tôt ou un an plus tôt et de revoir la phrase. J'ai même... utiliser ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je m'en sortais plus, je dis mais d'où ça vient, j'ai commencé comment, je suis retourné à la version initiale où il y avait une sorte de fraîcheur, c'est la première fois que j'exprimais la chose, et peut-être j'ai retrouvé une sorte d'énergie, donc je consultais cela. Et c'est pour ça que votre question est très intéressante, parce que on a l'air d'entendre que depuis qu'il y a Internet, tous les brouillons disparaîtraient. C'est exactement le contraire. Moi j'ai pratiquement aucun brouillon du temps où j'écrivais à la machine, parce que justement là, j'étais pas très ordonné, mais avec l'ordinateur, que la façon dont je procède moi naturellement, qui est d'enregistrer sous, fait que j'ai une énorme masse de documents, mais qui ne prend absolument pas de place. Donc c'est une question de... Je m'étonne, je suis vraiment surpris qu'on dise, et que ça a l'air d'être dans... de notoriété publique, que depuis qu'on écrit à l'ordinateur, il n'y a plus d'archives. Pour moi, c'est exactement l'inverse.
Alors, dans ce site internet, toujours Jean-Philippe Toussaint, il y a une section qui s'appelle Cahier d'archives, où on peut se procurer des inédits de Jean-Philippe Toussaint, alors sous forme électronique, en téléchargement libre aujourd'hui, mais bien sûr, l'internaute peut contribuer financièrement s'il le désire. Alors, on y trouve le fameux premier roman échec dont on a parlé, celui que vous avez écrit avant La salle de bain. On y trouve aussi la pièce de théâtre Les draps de lit, et un livre bientôt disponible, La faute de frappe. L'idée aussi, c'est vous qui l'expliquez sur le site, c'était de demander à Laurent Demoulin d'établir pour chacun de ces textes inédit, une édition critique. Alors, ce qui est une idée évidemment à la fois savoureuse, curieuse, que de faire une édition critique d'inédit.
Oui, alors je voulais donner un statut particulier à ces livres. Je n'avais pas envie qu'ils apparaissent d'une façon ou d'une autre en livre papier et qu'ils puissent apparaître comme mon dernier livre, étant la dernière parution. Ils ont un statut à part. Ce sont des livres que j'ai écrits, ou des tentatives littéraires, je le vois plutôt comme une tentative, des tentatives que je respecte, pour lesquelles j'ai beaucoup de tendresse, c'était mes premières tentatives, mais c'est un statut différent, donc je ne voulais pas qu'il soit publié par exemple aux éditions de Minuit, je ne pense pas que d'ailleurs que Irène Nanon aurait été enchantée que je lui présente, mais donc je ne l'ai pas présenté, mais en même temps je n'étais pas du tout opposé à ce qu'il soit publié, auprès d'un public averti, c'est-à-dire j'avais envie de préciser que c'était mes premières tentatives, et si vous êtes étudiant ou professeur ou amateur, vous avez envie de jeter un coup d'œil, pourquoi pas, vous avez le droit de le faire, je suis ouvert à cela, et surtout parce que j'apporte un peu quelque chose de supplémentaire à l'originalité de ce site internet. Je pense que c'est cette spécificité d'internet, s'il n'y avait pas eu ce mode d'internet, ces inédits seraient restés dans... selon l'expression courante, dans mes tiroirs. Alors, je ne sais pas quel tiroir, mais enfin bon, maintenant on dit dans le nuage. J'aime bien les nuages, ça me paraît plus vraisemblable, parce que je n'ai pas de tiroir, enfin je ne pense pas que j'avais un tiroir dans lequel reposaient tous ces manuscrits, mais enfin bon, c'est selon l'expression consacrée, ils étaient dans un tiroir, ils seraient restés dans un tiroir. Mais là, en effet, ça me semblait être une spécificité d'Internet. Laurent Demoulin collabore à ce site, c'est un ami et c'est aussi un des collaborateurs actifs du site et c'est aussi un chercheur et donc je trouvais ça assez intéressant de présenter, de donner je dirais à ces manuscrits auxquels comme je l'ai dit je suis lié, enfin très affectivement lié, c'est mes premières tentatives littéraires, et bien je leur ai donné un très bel écrin. Laurent Demoulin, universitaire, s'est penché dessus comme s'il s'agissait vraiment de livres importants et a fait une édition critique. Patrick Socquet a fait de son mieux pour faire un magnifique livre électronique, et l'idée au départ c'était de le mettre à disposition et un peu d'étudier comment marchait le marché électronique, et donc on a fait appel à Amazon. Et donc on l'a mis parce qu'Amazon était le seul site qui permettait à des particuliers, dans mon genre, de publier à compte d'auteur sans maison d'édition. Tous les autres sites veulent avoir affaire à des éditeurs. On l'a fait, mais quand même ça me déplaisait profondément. J'ai quand même conscience qu'Amazon est je le dis simplement, un ennemi. Je me sentais vraiment en porte-à-faux, même si je n'enrichissais pas Amazon avec ses inédits, ce n'était pas les quelques téléchargements et les quelques personnes qui l'achetaient à un prix dérisoire d'ailleurs sur Amazon, c'était une question de principe. C'est vrai que la réflexion et la conscience que j'ai qu'Amazon met en péril le système de librairie de qualité en France, la façon dont il y a un dumping évident, c'est-à-dire ils offraient, en tout cas maintenant la loi va peut-être changer, le port gratuit en France, mais pas à l'étranger. Si vous voulez acheter un livre, mon livre au Japon, vous payez le port. Pourquoi ? Parce que là, il y a plus de concurrence, ils n'ont plus de concurrents, donc ils font payer. Donc il y a tout un aspect extrêmement néfaste, déplorable d'Amazon, et je trouvais même à ma toute petite échelle qu'il fallait que j'aie une position éthique et morale, et donc nous avons retiré d'Amazon, qui ne s'enrichira pas sur mon modeste dos avec mes modestes inédits, qui étaient d'ailleurs très très peu téléchargés. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait le faire en accès libre, et on le trouve, alors c'est très luxueux, hein, il y a tous les formats, pour liseuse, Kindle, pour l'iPad, etc. Et puis même, il y avait des étudiants qui ont dit « mais on n'arrive pas à le télécharger, nous on a juste un ordinateur ». Qu'à cela ne tienne, on offre maintenant aussi un PDF. Et donc voilà, il y a une sorte de grand luxe. On s'est penché sur ce berceau, si je puis dire, à plusieurs spécialistes. Et je suis assez fier finalement que ces inédits soient présentés et soient disponibles de cette façon.
Alors ceux qui s'enrichissent avec ce site internet jptoussaint.com, ce sont bien sûr les chercheurs, les étudiants, puisque là aussi dans le site, il y a une masse de textes qui vous sont consacrés, Jean-Philippe Toussaint. Nombreuses thèses, nombreux mémoires. J'ai envie de citer quelques titres parce qu'ils sont souvent très beaux. Donc j'en donne quelques-uns. Personnage et narration dans la trilogie, à l'époque, hein, trilogie de Marie de Jean-Philippe Toussaint, une énergie romanesque du corps, ça c'était Marine Gilbert. Faire l'amour au cœur des interférences, c'est un essai de Célia Novak. Temps et espace dans l'univers flottant de Jean-Philippe Toussaint, Camilla Drake. D'une poignée de vent, la vie de Marie, selon Toussaint, d'Ernst Peter Röhe, et puis un dernier, un ou deux autres peut-être, la poétique narrative et descriptive de Jean-Philippe Toussaint, le réel comme oubli de soi, c'est Nicolas Xanthos, et puis, allez, un dernier, la dialectique de la fatigue et les stratégies narratives de Jean-Philippe Toussaint, ça c'est Anya Kaus. Est-ce que vous lisez tout? Est-ce que ça vous effraie un peu? Est-ce que vous apprenez des choses sur vous?
Alors, je vais être très franc, ça m'enchante, je suis ravi. Et une confidence, non, je ne les lis pas. Et je dirais heureusement, parce que d'abord, ça me prendrait énormément de temps. Et puis, comme je me considère quand même toujours comme un écrivain en activité, je pense que ça pourrait être très perturbant pour moi de lire précisément tout ce que je fais et comment je procède, etc. Donc ça, c'est même assez intimidant. Il m'arrive de jeter un coup d'œil, je sais. Et alors, je voulais simplement préciser que tous ces thèses, ces mémoires, en fait, ont été donnés par leurs auteurs, les étudiants, et qu'ils sont consultables en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement des citations, vous pouvez cliquer et vous les lisez. On peut en effet tous les lire. Et c'est une des choses aussi à laquelle je tenais dans le site, c'est qu'en fait, l'idée, qu'on peut résumer en un mot, tout est cliquable. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose, on fait référence à un article ou à une thèse ou à un mémoire, on clique et on peut le lire. Sinon, c'est simplement une sorte de... comment dirais-je...
Le catalogue...
Oui, c'est pas extrêmement intéressant. Donc et c'est aussi, indirectement, une réflexion sur l'archive. Et donc, je trouve que... et une réflexion pratique sur l'archive. C'est-à-dire que, finalement... Ce genre de questions, normalement, se posent 20 ans après la mort de l'auteur, ou 10 ans, dans le meilleur des cas, juste après la mort de l'auteur. Et ça m'intéresse de me la poser, cette question de l'archive, dès maintenant, et donc finalement d'apporter aussi ma propre réflexion, avec d'autres, sur ce que j'ai écrit, ce qui normalement ne fait pas partie de ce qui va être publié, de ce qui devait rester dans l'ombre, et ben pourquoi pas y réfléchir. Et moi, je suis ravi aussi d'avoir cette réflexion, parce que ça fait partie aussi de mon travail.
Et comme si ça ne suffisait pas, comme s'il n'y avait pas assez de choses à lire, Jean-Philippe Toussaint, par votre site, on est incité à écrire. Là, je veux parler du Borges Projet. Vous évoquez dans La vérité sur Marie, une nouvelle de Borges, l'île des anamorphoses. Est-ce que vous pouvez raconter la suite et ce que vous proposez sur le site?
Oui, alors dans La vérité sur Marie, j'invente une nouvelle de Borges. Alors c'est très
ce qui
très
est la moindre des choses.
Ce qui est la moindre des choses en ce qui concerne Borges, je lui rends la monnaie de sa pièce, si on peut dire. Et d'ailleurs, beaucoup de gens et très cultivés ont cherché cette nouvelle, enfin, parce que c'était pas clair. La seule précision, c'est qu'il y avait l'adjectif, je disais, la nouvelle apocryphe de Borges. Donc on aurait pu là se méfier. Enfin, je sais que beaucoup ont cherché, mais cette nouvelle n'existe pas. Et pour cause, je l'ai inventée. L'idée, avec les gens avec qui je collabore, avec Patrick Soquet, avec Laurent Demoulin, avec d'autres, on s'est dit, mais pourquoi pas faire appel aux internautes, aux étudiants, aux chercheurs, aux professeurs, aux écrivains, aux amis, et leur proposer de l'écrire, cette nouvelle. Et donc, on a mis au point dans le site le Borges Projet, avec un appel à contribution, en invitant chacun, et j'appelle tous les gens qui nous écoutent à y réfléchir, à se pencher sur la question, s'ils ont envie d'écrire cette nouvelle, l'île des anamorphoses. Il y a juste deux ou trois lignes de contraintes, c'est-à-dire que je résume la nouvelle où l'écrivain qui a inventé la troisième personne en littérature finit déprimé et vaincu par se remettre à écrire à la première personne. Voilà en gros le sens ou le résumé de la nouvelle apocryphe. J'invite donc chacun à l'écrire. Et là aussi, ce qui m'intéresse dans ce site internet, c'est qu'il soit dynamique, c'est qu'il soit vivant. L'interactivité ne me plaît pas dans le sens de laisser des messages ou de dire bonjour, tout ça n'a pas beaucoup de sens du point de vue de la forme. Mais ce type d'interactivité, c'est-à-dire là, c'est de la vraie interactivité, il faut travailler, il faut proposer. Et donc j'invite les gens qui veulent se pencher à écrire cette nouvelle et on va créer une forme spécifique sur le site, on va créer une sorte de ciel étoilé. Et on pourra cliquer sur différentes étoiles et chaque étoile aura une sorte de nom de code et s'ouvrira sur une des nouvelles écrites par tout un chacun. Et l'idée assez borgésienne, parce que tout ça évidemment devient assez labyrinthique et universel et infini à la façon de Borges, c'est que dans mon esprit ou dans mon espoir, les nouvelles apparaîtront dans ce ciel étoilé. Alors, je rêve à ce qu'il y en ait au moins une dizaine au départ, une quinzaine, mais qu'après, l'étape suivante, ce serait de faire un appel à la contribution pour qu'on les traduise. Donc, par exemple, telle nouvelle, j'ai fait l'appel à contribution en japonais et en coréen. Donc, je suis en train d'écrire quelques messages à des amis pour que j'ai au moins un ou deux écrivains japonais et ou coréens qui se penchent sur la question, qui m'envoient un texte. Je serais vraiment très flatté de pouvoir mettre un texte, une nouvelle d'un écrivain coréen. Et après, l'idée, ce serait de le faire traduire. Donc, et un peu dans toutes les langues, que ce texte écrit en coréen soit traduit en allemand, puis enfin bon, quelque chose de vraiment borgésien. Et l'idée est toujours de faire de ce site quelque chose de dynamique. C'est difficile, alors on n'arrête pas d'y penser, mais c'est vrai que ça a quelque chose d'assez lourd. Le site, il bouge pas tellement, je voudrais qu'il bouge plus. Une autre idée qui était dès le départ, c'était de faire appel à des correspondants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a sur la page d'accueil une possibilité d'entrer. Alors, on peut rentrer dans la page en français, donc par Paris, et on a une déclinaison classique, mais on peut aussi rentrer par la page Japon, par Tokyo, et la page est en japonais, et c'est très très riche. Et aux États-Unis, la page est en anglais, et elle était confiée à Alain-Philippe Durand, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un professeur, et qui, avec ses étudiants, est chargé de la page. Et récemment aussi, j'ai mis au point une collaboration avec l'université de Sarrebruck en Allemagne, et il y a un séminaire qui est dédié spécialement à la page allemande du site, et donc il y a 4-5 étudiants qui travaillent spécifiquement sur cette page, et donc du coup s'ils travaillent, ça va bouger, ils vont changer des choses. Et moi, mon rêve, c'est que ça bouge, donc j'essaye de donner des petits coups pour que, de tous les côtés, pour que faire bouger les choses et que ce site soit vivant, dynamique, et qu'il se passe quelque chose.
On voit bien qu'il s'en passe des choses sur jptoussaint.com, je le redis encore une fois. Alors pour revenir au verbe documenter, qui guide cet entretien, et puis pour aborder la question du making-of, vous avez expliqué tout à l'heure cette innovation, cette webcam qui suivait et permettait de suivre en permanence le tournage de votre film La Patinoire, qui lui-même et l'histoire d'un tournage de film, donc on est en plus dans la mise en abîme, mais c'est une dimension, celle des coulisses, qui est présente aussi dans le catalogue La main et le regard de l'exposition Livre-Louvre. Enfin, c'est vraiment une question qui vous intéresse au-delà de la question de l'écriture. On pourrait dire que les brouillons, ce sont aussi des coulisses. On revient à la question hantée, celle du regard, d'où est-ce qu'on regarde, du décalage.
En fait, c'est vrai que ce goût des coulisses, d'aller voir derrière, m'a toujours fasciné. C'est vrai que dans les films que j'aime, il y a La Nuit américaine de Truffaut, mais encore plus La Ricotta de Pasolini. Mais tous ces films qui montrent un tournage, ça m'a toujours fasciné, au point que j'en ai fait un moi-même. La Patinoire, en effet, raconte un tournage de film. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je trouve que ça n'explique rien du mystère. C'est pas parce qu'on voit ce qu'il y a derrière qu'on comprend tout. C'est que ça désacralise. Ça désacralise pas du tout. Ça au contraire, je dirais, ça apporte plus. C'est un complément. Et donc j'ai eu ce goût. J'ai toujours aimé aller voir derrière le rideau. Et donc c'est vrai que lorsque j'ai fait l'exposition du Louvre, j'étais content qu'il y ait des caméras qui soient là et qui par exemple, j'ai pas un goût particulier des caméras pour expliquer mon travail dans le sens de la promotion. Au contraire, je préfère me tenir assez éloigné des plateaux de télévision. Par contre, dans le travail et sur le travail, j'aime beaucoup parler du travail au moment où je le fais. Et je pense que c'est une chose réellement importante. D'abord que moi-même, ça me plaît de voir comment les autres créateurs travaillent, donc de voir des making-of d'autres films, de comprendre le texte que j'ai écrit, L'urgence et la patience, et d'une certaine façon, une sorte de coulisse, puisque j'essaye de raconter la façon dont j'écris. Et comme lecteur, ça m'intéresse de lire des livres où les écrivains parlent de leur travail. C'est une des choses qui me fascine, qui m'intéresse. Donc je suis très ouvert sur cette idée de coulisse.
Documentation, source aussi, à propos de L'urgence et la patience, il y a un des textes qui s'appelle de mémoire, comment j'ai construit certains de mes hôtels. Il y a l'idée quand même que c'est la vie qui est la, qui est la source de documentation première, et là, cette phrase-là que je cite, pour le coup, de l'urgence et la patience, il faut éteindre beaucoup de vie réelle pour obtenir le concentré d'une seule page de fiction.
Oui, il y a toute cette réflexion dans l'urgence et la patience, au-delà des coulisses entre la réalité et la fiction, les sources multiples, le fait qu'une page de fiction, finalement, est nourrie, ou plus simplement, je parle là des hôtels de mes livres. Un hôtel, je dis qu'il est composé de plusieurs hôtels réels, que par exemple je vais aller prendre la façade dans un hôtel que je connais à Tokyo, mais l'intérieur de la chambre ce sera un hôtel d'Osaka, et puis je vais rajouter un hôtel que je connais à Shinagawa pour tel détail d'un téléviseur, et puis quand même je vais prendre un petit hôtel aussi d'un jour à Hong Kong où il y a tel détail, et puis je vais inventer des détails moi-même, donc venus d'aucun hôtel réel, d'un simple hôtel imaginé, et puis je vais avoir un hôtel de rêve ou un hôtel fantasmé, et cette espèce de mélange va créer un hôtel romanesque. Et à un moment, je dis, mais j'ai l'air de parler d'hôtel, mais en fait, vous savez, je parle des personnages, c'est pareil, hein, donc je parle de Marie, donc je parle d'Edmondson, donc je parle des personnages féminins, je fais mine de parler d'hôtel, mais c'est la même chose. Un personnage féminin, romanesque, et lui aussi composé de plusieurs femmes réelles, peut-être d'une plus particulièrement, mais je vais aller chercher tel détail chez une autre, et puis tel détail chez une autre, et puis je vais ajouter tel détail que j'aurais fantasmé, tel que j'aurais rêvé, tel qui aura telle couleur, lié à un mot, et donc finalement, cette espèce d'alchimie très complexe fait qu'à l'arrivée, il va y avoir un personnage romanesque qui va paraître, qui va avoir une illusion d'être... vivant, d'être une personne réelle que la littérature aura réussi à capter. Et ça sera d'autant plus convaincant, je crois, qu'il y aura une ambivalence, que ce soit pas d'un seul tenant, que ce soit pas un caractère qui ait des choses contradictoires dans un personnage. Plus il y a des choses contradictoires, plus le personnage sera crédible et riche, je pense.
Et pour finir sur ce verbe documenter que je vous ai proposé aujourd'hui, Jean-Philippe Toussaint, il y a toute cette idée, effectivement, qu'on a développée par rapport au site Internet, par rapport à ces personnages ou ces lieux composites. Vous évoquiez dans un précédent entretien des carnets de notes, mais dans lesquels vous n'alliez jamais retourner voir ce qui était inscrit, pas savoir d'où vient cette image d'un cheval vomissant dans les soutes d'un avion cargo. Donc, documenter, oui, mais sans documentation réelle. On est dans l'immatériel, j'ai l'impression, toujours.
Oui, alors, il y a une exception, c'est justement dans La vérité sur Marie. C'est le seul livre où j'ai vraiment fait appel à la documentation. C'est-à-dire que, par exemple, sur les chevaux, j'y connaissais quand même pas suffisamment moi-même. Sur les Boeing 747, non plus. Et donc là, j'ai vraiment utilisé, et c'est une des seules fois, notamment par exemple, pour tout ce qui concerne l'avion 747, j'ai rencontré un commandant de bord d'Air France, et j'ai fait vraiment une sorte d'entretien avec lui pour me documenter. J'ai lu un énorme manuel destiné aux propriétaires de chevaux, et que j'ai étudié. Donc d'habitude, je me méfie un peu de trop de documentation, en me disant que ça pouvait noyer, le seul roman, finalement, où j'ai utilisé de façon systématique la documentation, vraiment j'étais chercher beaucoup de documents, c'est La vérité sur Marie. Et peut-être que je l'ai fait trop, parce que pour Nul, le roman d'après, je me suis dit, pas trop de documentation quand même. C'est bien, mais il ne faut pas que ça m'alourdisse, il faut que justement que je manque un peu de documentation pour pouvoir l'imaginer moi-même. Et par exemple, un des aspects où j'aurais pu très facilement aller vers la documentation, c'est tout ce qui concerne les défilés de mode. Je me suis dit non, je n'ai jamais été présent à un défilé de mode, j'ai toujours imaginé, mais certes, je connais des tas de coulisses, je connais les coulisses des expositions, des montages d'expositions, j'ai fait une exposition au Louvre, donc je sais comment ça se passe, je connais les coulisses d'un tournage de film, et je peux imaginer, sans l'avoir jamais vu, ce qu'est un défilé de mode. Et peut-être même, je préfère l'imaginer. Voilà ce que je me suis dit.
Vous n'êtes pas une fashion victime ?
Pas encore.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Arnaud Laporte rencontre Jean-Philippe Toussaint. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Frédéric Kérou, réalisation Rafik Zénine, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et se podcast pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Arnaud Laporte avec Jean-Philippe Toussaint.
France Culture, un été d'écrivain. Culture, un été d'écrivain, deuxième partie, lecture. Ce soir, autour de Marie, Jean-Philippe Toussaint a choisi de lire des extraits des livres qui composent son cycle romanesque intitulé « Marie, Madeleine, Marguerite de Montalt », un cycle consacré à Marie, créatrice de mode et compagne du narrateur. De Paris à Tokyo, en passant par l'île d'Elbe et la Chine, les deux personnages ne cessent de se séparer et de se retrouver. Autour de Marie, feuilleton en 5 épisodes d'après le cycle romanesque de Jean-Philippe Toussaint, publié aux éditions de Minuit. Lecture par Jean-Philippe Toussaint, enregistré en public au musée Calvet dans le cadre du Festival d'Avignon. Quatrième épisode, La vérité sur Marie, deuxième partie.
C'était la première fois que je revenais à l'île d'Elbe depuis l'été dernier. J'y revenais presque un an jour pour jour après la mort du père de Marie. J'avais voyagé dans le même bateau de la Torre et Marc l'année dernière, quand j'étais revenu de Chine pour assister aux obsèques de son père. Dès le départ du navire, j'avais été me réfugier dans un salon couvert de l'entrepont inférieur et j'avais rêvassé dans l'ombre lourde et chaude d'un robuste siège aux accoudoirs métalliques. J'avais fini par m'assoupir, je somnolais dans la pénombre, bercé par les ronronnements du moteur, quand les événements de la nuit de la mort de Jean-Christophe de G s'étaient mis à affleurer à ma conscience, sans que je cherche particulièrement à les reconstituer par un effort délibéré de la mémoire. Non, j'en revivais simplement des bribes dans mon demi-sommeil, laissant émerger quelques conjectures dans mon esprit, hypothèses et images, en faisant appel à des zones différentes de mon cerveau, selon que j'avais recours au raisonnement pour élaborer des hypothèses, ou que j'en appelais au rêve pour invoquer des images. Je savais qu'il y avait sans doute une réalité objective des faits, ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, dans l'appartement de la rue de Lavrière, mais que cette réalité me resterait toujours étrangère. Je pourrais seulement tourner autour, l'aborder sous différents angles, la contourner et revenir à l'assaut, mais je buterais toujours dessus, comme si ce qui s'était réellement passé cette nuit-là m'était par essence inatteignable, hors de portée de mon imagination et irréductible au langage. J'aurais beau reconstruire cette nuit en image mentale qui aurait la précision du rêve, j'aurais beau l'ensevelir de mots qui auraient une puissance d'évocation diabolique, je savais que je n'atteindrais jamais ce qui avait été pendant quelques instants la vie même. Mais il m'a paru alors que je pourrais peut-être atteindre une vérité nouvelle, qui s'inspirerait de ce qui avait été la vie et la transcenderait, sans se soucier de vraisemblance ou de véracité, et ne viserait qu'à la quintessence du réel, sa moelle sensible, vivante et sensuelle, une vérité proche de l'invention, ou jumelle du mensonge, la vérité idéale. Vers la fin de la traversée, tandis que le navire commençait à s'approcher des rivages de l'île d'Elbe,
Mes pensées se mirent à glisser vers une autre nuit dont Marie m'avait parlé la nuit de son retour du Japon. Je n'avais pas été présent physiquement avec elle cette nuit-là, mais je voyais de la même manière les événements se dérouler derrière mes yeux fermés, avec les principaux protagonistes qui se matérialisaient et s'incarnaient dans ma conscience, sans nom et sans visage. Ce n'étaient pourtant ni des inventions ni des chimères, mais des personnes réelles qui avaient dû vivre dans la réalité ce que je les voyais vivre dans mon esprit. Bercé par le bruit hypnotique des moteurs du bateau, je les voyais évoluer en silence dans mon esprit. Et même si j'étais moi-même absent des scènes qui se déroulaient derrière mes yeux fermés, si je n'en étais pas partie prenante, même si je n'apparaissais pas physiquement parmi les autres figures, je me savais intimement présent, non seulement en tant que source unique de l'invocation en cours, mais au sein même de chacun des personnages, avec qui des liens intimes m'unissaient, des liens enfouis, privés, secrets, inavouables, car j'étais autant moi-même que chacun d'eux. La connaissance très imparfaite que j'avais du déroulement de la nuit de la mort de Jean-Christophe de G, les nombreuses zones d'ombre qui demeuraient dans ma connaissance des événements survenus cette nuit-là, ne constituaient pour moi nullement un handicap. Au contraire, ils m'obligeaient à un plus grand effort d'imagination pour recréer mentalement les événements, alors que si je les avais réellement vécus, je m'en serais simplement souvenu. Je n'avais pas été présent cette nuit-là, mais j'avais accompagné Marie en pensée avec la même intensité émotionnelle que si j'avais été là, comme dans une représentation qui serait advenue sans moi, non pas de laquelle j'aurais été absent, mais à laquelle seuls mes sens auraient participé. Comme dans les rêves, où chaque figure n'est qu'une émanation de soi-même, recréée à travers le prisme de notre subjectivité, irradiée de notre sensibilité, de notre intelligence et de nos fantasmes. Même si je ne dormais pas, c'était le mystère irréductible du rêve qui était en train d'agir et de jouer en moi, qui permet à la conscience de construire des images extraordinairement élaborées qui s'agencent dans une succession de séquences apparemment disposées au hasard, avec des ellipses vertigineuses, des lieux qui s'évanouissent et plusieurs personnages de notre vie qui fusionnent, se superposent et se transforment, et qui, malgré cette incohérence radicale, ravivent en nous, avec une intensité brûlante, des souvenirs, des désirs et des craintes, pour susciter, comme rarement dans la vie même, la terreur et l'amour. Car il n'y a pas, jamais, de troisième personne dans les rêves. Il n'y est toujours question que de soi-même, comme dans l'île des Anamorphoses, cette nouvelle apocryphe de Borges, où l'écrivain qui invente la troisième personne en littérature finit, au terme d'un long processus de dépérissement solipsiste, déprimé et vaincu, par renoncer à son invention et se remet à écrire à la première personne. Je fus un des premiers à quitter le navire lorsque le bateau arriva à l'île d'Elbe. Marie m'attendait sur le quai. Elle me regardait descendre la passerelle avec quelque chose de beau, d'attentif et de voilé dans le regard. L'amour avait été présent dès la seconde où nous nous étions revus, dès le premier regard. Même si mes bras, mes mains que je sentais aimantées vers elle, se gardèrent bien de confirmer l'aveu implicite que mes yeux avaient laissé échapper. En arrivant sur le quai, je m'étais contenté de lui effleurer l'épaule en silence, ne sachant que dire, laissant glisser ma main sur son bras nu, premier frôlement de nos peaux depuis 2 mois. C'était Marie qui m'avait proposé de venir la rejoindre à l'île d'Elbe, mais cela n'impliquait sans doute aucune modification dans notre relation. Nous étions toujours séparés, même si par la force des choses, notre relation était devenue nouvelle, inédite, ambiguë. Aussi curieux que cela puisse paraître, je plaisais à Marie. Je lui avais toujours plu. D'ailleurs, je m'étais aperçu que je plaisais, peut-être pas aux femmes en général, mais à chaque femme en particulier. Chacune croyant être la seule, par sa perspicacité singulière, son regard pénétrant et son intuition féminine, à repérer en moi des qualités secrètes qu'elles imaginaient être les seules à pouvoir détecter. Chacune d'elles étant en fait persuadée que ces qualités invisibles qu'elles avaient décelées en moi échappaient à tout autre qu'elles-mêmes, alors qu'elles étaient en réalité très nombreuses à être ainsi les seuls, à apprécier mes qualités secrètes et à tomber sous le charme. Mais il est vrai que ces qualités secrètes ne sautaient pas aux yeux et que, à force de nuances et de subtilités, mon charme pouvait passer pour terne et mon humour pour éteint, tant l'excès de finesse finit par confiner à la fadeur. Fin d'après-midi, Marie me proposa d'aller nous baigner. Nous avions rejoint une petite crique déserte qui s'étendait dans le silence de l'après-midi, un silence immobile de clapotements de vagues et de vibrations d'insectes. Marie se promenait en maillot de bain au bord de l'eau. Elle avait ramassé une pierre et se penchait pour décoller des arapèdes accrochés au rocher qu'elle portait à sa bouche en continuant à se promener sur les rivages, suçant la coquille et la rejetant loin dans la mer, dans un geste nonchalant et arrondi du bras. Debout, rêveuse, les pieds dans la mer et les mains sur les hanches, elle observait une anémone de mer qui flottait mollement à ses pieds entre deux eaux, à peine submergée, ses tentacules déployés, qui se laissait onduler dans le ressac comme les prolongements d'une chevelure flottante et transparente. Puis elle était entrée résolument dans l'eau, les deux bras écartés, se grandissant pour ne pas laisser le fil de l'onde atteindre ses aisselles et poussant de brefs cris de protestation saccadés qui allaient crescendo pour souligner la différence thermique entre son corps et la mer, avant de se laisser tomber joyeusement en arrière dans l'eau et de se mouiller les cheveux sur place. Elle barbota ainsi quelques instants avant de me demander de lui apporter son masque. Je la rejoignis et elle se mit à rincer le masque à côté de moi, cracha dedans pour nettoyer le hublot. Elle l'ajusta et mit la tête sous l'eau pour jeter un coup d'œil sous la mer. « Il y a plein d'oursins, » me dit-elle d'une voix enjouée, un peu nasale, pincée par le masque. Et s'éloignant de moi à la nage, elle se fit soudain basculer entièrement à la verticale dans l'eau, ses jambes s'agitant un instant anarchiquement dans le vide, avant de s'enfuir progressivement dans la mer. Elle avait complètement disparu au fond de l'eau, seul un bouillonnement silencieux de petites bulles à la surface témoignait encore de sa présence sous-marine affairée dans les parages. N'ayant pas d'ustensiles, petit couteau ou fourchette, elle mit beaucoup de temps avant de reparaître, émergeant d'un coup, hors d'haleine et me cherchant des yeux, le masque de travers, soufflant de l'eau par le tuba, tel un jet d'eau vertical de baleine, avec dans les mains trois beaux oursins mauves dégoulinants, les piquants encore mobiles, recouverts de minuscules particules minérales ou végétales, des fragments d'algues et de petits cailloux, des débris de pierres colorées, des brisures de coquillages. Elle se remit debout et regagna aussitôt le rivage à pied, marchant dans l'eau en se déhanchant contre l'onde, poussant la mer à la force de ses cuisses. Elle s'empara d'une grosse pierre sur les rochers et ouvrit les oursins, sommairement, brisant les testes à coups de pierre, l'un après l'autre. Elle détacha une lamelle orangée avec le revers de son doigt et la dégusta, d'abord elle-même, avec cet imperceptible mouvement de vrille de l'index pour le porter à sa bouche, puis m'en proposa une quand je sortis de l'eau, encore mouillée, pour venir la rejoindre, me donnant tendrement deux ou trois fois de suite la becquée, et je me régalais autant de son doigt mouillé que des fraîches et délicieuses lamelles d'oursin qui fondaient dans ma bouche. Nous étions partis nager. Des scintillements argentés de soleil se dispersaient devant nous à la surface de l'eau chaque fois que nous écartions les bras. Marie s'éloignait parfois vers le large de son très beau mouvement de crawl, lent, régulier, décomposé, les bras montant vers le ciel et plongeant dans la mer avec comme un léger contretemps. Puis elle revenait vers moi et restait un instant en suspension à ma hauteur, comme en apesanteur dans l'eau. Marie, insaisissable, s'approchait et s'éloignait de moi. Elle riait, disparaissait sous l'eau. Nos jambes, parfois, se frôlaient. Nous nous effleurions dans la mer. Je lui avais caressé l'épaule en détachant tendrement quelques algues qui étaient restées collées à ses cheveux. Rien n'était avoué, rien n'était dit explicitement. Mais plus d'une fois, nos doigts s'étaient touchés sans prendre garde. Nos regards s'étaient croisés et enlacés dans l'eau. Je sentais une complicité ancienne renaître entre nous. Et j'étais envahi par un curieux mélange d'émotion et de timidité. J'avais envie de la prendre dans mes bras, de m'abandonner contre elle dans la mer, de serrer mon corps contre le sien dans l'eau tiède. Elle revint vers moi à la nage, le masque relevé sur le front, les pommettes mouillées. Elle semblait heureuse, épanouie, et elle me souriait, mutine, comme si elle venait de me jouer un mauvais tour. Et je m'aperçus alors que son maillot de bain était roulé dans sa main droite. Marie avait enlevé son maillot de bain. Elle était nue dans la mer à côté de moi, et je suivais des yeux la ligne fluctuante de son décolleté qui évoluait au diapason du fil de l'eau, tantôt très stricte et pudique, un ras du cou qui lui remontait jusqu'au menton, et parfois très plongeant, affolant et audacieux, qui descendait jusqu'à son nombril quand elle faisait la planche, en apesanteur sur le dos dans la mer, le ventre et les poils du pubis mouillés, les seins émergeant du léger ressac d'eau stagnante qui s'attardait sur son corps. Je ne la quittais pas des yeux, accompagnant son maillot de bain du regard, qui était devenu son étendard, le pavillon pirate de sa nudité dans la mer. Nous nous étions arrêtés l'un en face de l'autre, et nous nous sourions. Je regardais Marie, nue et masquée, en face de moi. Je m'approchai d'elle et lui pris doucement l'épaule. Elle se laissait faire. Il y avait de la gravité maintenant dans son regard. Je la sentais prête à s'abandonner à mon étreinte. Quand elle aperçut soudain un scintillement de nacre au fond de la mer, une oreille de Sainte-Lucie, et glissant comme une anguille contre ma peau mouillée, elle s'échappa d'entre mes bras et plongea, bascula à la verticale vers le miroitement entreaperçu, en me présentant, avant de disparaître, le nolim et tangere le plus éloquent qui se pût concevoir, la courbe de son cul s'enfouissant dans la mer.
Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Amore mio, hai già mangiato o no? Ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica.
Marie se faisait sécher à côté de moi sur les rochers. Des gouttelettes parsemaient son corps nu, que le soleil asséchait peu à peu, en laissant sur sa peau d'infimes marques de sel quasiment invisibles à l'œil nu, dont j'imaginais la saveur sur le bout de ma langue. Au bout d'un moment, pensive, les yeux fermés, elle tendit tendrement la main vers moi dans le vide, et me dit à voix basse cette phrase énigmatique. Tu sais, je n'étais pas sa maîtresse. Et sa phrase résonna un instant dans le silence de la crique. Elle ne dit pas de qui elle n'était pas la maîtresse, mais j'avais très bien compris. Et je lui sus gré de ne pas l'avoir nommée. Moi-même, d'ailleurs, je faisais mine de ne plus très bien me souvenir de son nom. Marie n'avait pas bougé. Elle était toujours allongée sur le dos, les yeux fermés, un genou relevé, la main posée à plat sur les rochers. Le silence était revenu dans la crique, à peine troublé par le murmure imperceptible de l'eau qui clapotait en contrebas. Qu'avait-elle voulu me dire en me disant qu'elle n'était pas sa maîtresse ? Qu'elle n'avait pas eu de relation sexuelle avec lui ? C'était très peu probable, pour ne pas dire impossible, même si on pouvait naturellement imaginer que leur relation n'ait pas été stricto sensu sexuelle, au sens le plus casuiste du terme, qui voudrait qu'il n'y ait pas de relation sexuelle s'il n'y a pas de pénétration sexuelle. Ce qui exclut la fellation et le cunnilingus d'une telle jurisprudence. Bref, de quoi s'amuser quand même, sans pour autant devenir amant. Mais je doute que c'est ça qu'elle voulait me dire. Non. Marie paraissait grave. Elle avait l'air émue. Et le ton qu'elle avait employé avait eu la solennité douloureuse d'un aveu ou d'une confidence. Je continuais de la regarder et je me demandais pourquoi elle avait éprouvé le besoin de me dire aujourd'hui qu'elle n'était pas sa maîtresse. Ce qui ne voulait d'ailleurs pas dire qu'elle ne l'avait pas été. L'imparfait qu'elle avait employé, plutôt que le plus que parfait, permettait par son ambiguïté ce petit mensonge par omission. Peut-être avait-elle simplement voulu me faire savoir qu'elle ne s'était jamais sentie liée à lui, qu'elle avait toujours eu le sentiment de rester libre et qu'elle ne pouvait en aucun cas être considérée comme la maîtresse d'un homme marié. Que c'était en quelque sorte le mot « maîtresse » avec ses connotations sociales, plus que ses réalités privées, qu'elle récusait, niant qu'on pût lui appliquer le mot, à défaut de la réalité qu'il recouvrait. Je ne sais pas. Ou bien avait-elle simplement voulu me dire que dans le fond, elle ne l'aimait pas. Elle ne l'avait jamais aimé. Que certes, il lui avait plu, qu'il était sans doute tombé au bon moment, qu'elle avait aimé sa gentillesse, sa prévenance, sa galanterie, son efficacité, que la vie avec lui était facile, confortable et rassurante, mais que c'était un autre qu'elle aimait. Marie et moi voulions passer une semaine ensemble à la rivière Chin, multipliant les jeux d'approche invisibles pour essayer de se retrouver. Nous croisons au rez-de-chaussée de la maison avec des serviettes de bain sur l'épaule et des lueurs séductrices dans le regard, entrelaçant nos trajectoires dans les jardins de la propriété, ne nous éloignant un instant l'un de l'autre que pour se rejoindre plus vite. Au fil des jours, la distance qui séparait nos corps se réduisait inexorablement, devenait de plus en plus ténue, s'amenuisait d'heure en heure, comme si elle allait nécessairement devoir un jour se combler. Nous nous frôlions le soir sur la terrasse, en débarrassant la table à la lueur des bougies, et nos ombres ne s'esquivaient pas dans la nuit, insistaient au contraire, recherchant des effleurements secrets dans le noir. Parfois, le soir, dans la cuisine, tandis que nous préparions à manger et que je surveillais la sauce tomate qui mijotait sur le vieux réchaud à gaz, une cuillère en bois à la main, Marie arrivait dans mon dos et je sentais l'onde silencieuse de son corps contre le mien, son bras nu qui me frôlait pour ajouter à la sauce quelques feuilles de sauge qu'elle avait été cueillir dans le petit jardin, parfois même ses doigts sur ma joue qui venaient taquiner ma barbe naissante en me reprochant de ne pas m'être rasé. Je lui prenais la main pour la retirer de ma joue et je songeais que le même geste de prendre la main pouvait avoir une signification bien différente selon qu'il était effectué dans le déroulement ordinaire de la vie, avec simplicité et sans cérémonie, ou qu'on l'accompagnait d'une intention et d'un regard, d'une soudaine gravité, qu'on le ralentissait pour le souligner et le mettre en valeur, comme je le fis ce soir-là dans la cuisine, pris d'une subite impulsion, sans avoir rien prémédité, rien prévu, et ignorant où cela nous mènerait. Tendant la main vers elle dans la cuisine et la regardant dans les yeux. La main et le regard, un instant suspendus dans le temps. Elle portait une large chemise blanche humide et elle avait ses vieilles tongs attendrissantes aux pieds, dont une des marguerites était abîmée, qui avait dû se tordre dans la poussière d'un sentier et qui semblait avoir été effeuillée entre ses orteils, un peu, beaucoup, passionnément, par une main rêveuse et vagabonde. Une ombre de gravité traversa le regard de Marie. Elle devint songeuse et fit un pas vers moi, se laissa glisser contre mon corps. Et nous restâmes un instant enlacés dans la cuisine contre le réchaud, bercé par le bruit délicieux de la sauce tomate qui continuait de mijoter à gros bouillon derrière nous sur le feu. Ce fut un simple instant de tendresse isolée. Mais je compris alors que nous n'avions peut-être jamais été aussi unis que depuis que nous étions séparés.
C'était « Autour de Marie », feuilleton en 5 épisodes, d'après le cycle romanesque de Jean-Philippe Toussaint. Lecture par Jean-Philippe Toussaint. Enregistré en public au Musée Calvet, dans le cadre du Festival d'Avignon, en partenariat avec la SACD. Prise de son Philippe Bredin et Arnaud Chapat. Sonorisation Tanguy Le Corneau. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Réalisation Delphine Lemaire. Les livres de Jean-Philippe Toussaint sont publiés aux éditions de Minuit. Série d'un été d'écrivains, lectures et entretiens.